This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viol, c'est Alain Vaquier, réalisé par Bruno Bertrand. Cette année-là, 1989, c'est l'année du bicentenaire de la Révolution française. Et en France, cette année-là, eh bien, on se préoccupe d'imaginer un grand défilé, style défilé de mode, que va mettre en scène un metteur en scène, couturier d'ailleurs, lui aussi, Jean-Paul Goude, et qui va donner une manifestation qui se produira sur les Champs-Élysées, sur le Champ de Mars, autour du 14 juillet. Aucune effervescence idéologique particulière, aucune mobilisation sur l'idée, sur les idées de liberté, égalité, fraternité. Quand à l'autre bout de la planète, en Chine, eh bien, des gens se réclament de ces mêmes idéaux. Alors pour ceux qui ont pu le voir, nul ne peut oublier cet homme seul, sans armes, qui va au-devant des chars chinois avec deux sacs et qui bloque une colonne d'engins pendant de longues minutes, qui monte sur un char pour parler aux soldats. Et puis l'homme va être interpellé par des hommes habillés tout de noir, des policiers probablement. Il l'interpelle donc, il l'emmène. Et on n'entendra plus jamais parler de l'homme de Tiananmen. Mais cet homme va laisser un souvenir très fort, et les télévisions du monde entier vont relayer cette image de ce symbole de cette impuissance transformée en puissance, puisque le petit homme donc peut s'opposer à la progression d'une colonne de chars, pas un seul char, mais toute une colonne. Alors les manifestations de Tiananmen se dérouleront entre le 15 avril et le 4 juin sur la place Tiananmen, dite en français « place de la paix céleste ». Ironie du sort. Elles se sont conclues, ces manifestations, par une vague de répression, parfois englobée sous l'expression « massacre de la place Tiananmen ». Elles prirent la forme d'un mouvement d'étudiants, puis d'intellectuels, puis d'ouvriers chinois qui dénonçaient la corruption et demandaient les réformes politiques et démocratiques qu'ils souhaitaient. La contestation s'étendit à la plupart des grandes villes, comme Shanghai, et aboutit à Pékin à une série de grandes, très grandes manifestations et de grèves contre la faim, organisées sur la place par notamment des étudiants. Après plusieurs tentatives de négociation, le gouvernement chinois instaura la loi martiale le 20 mai 1989 et fit intervenir l'armée le 4 juin. La répression du mouvement provoqua un grand nombre de victimes civiles, de quelques centaines à quelques milliers selon les sources, et de nombreuses arrestations dans les mois qui suivent. Plusieurs dirigeants politiques favorables au mouvement furent limogés et placés en résidence surveillée, notamment le secrétaire général du Parti communiste chinois, Zhao Xingyang. Par la suite, un coup d'arrêt durable, terrible, fut porté aux réformes politiques en République populaire de Chine. Le gouvernement expulsa les journalistes étrangers et contrôla strictement la couverture de l'événement par la presse chinoise. À l'étranger, la répression provoqua une condamnation générale du gouvernement chinois. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un envoyé spécial en Chine qui fait le point sur, presque banalement, une journée sur la place Tiananmen. C'est le septième jour.
La télévision chinoise l'a montré plusieurs fois. Zhao Ziyang, secrétaire général du parti, a rendu visite à 4h40 du matin aux grévistes de la faim. Il leur a fait, d'un ton assez paternel, des propositions qui restaient très fermes. cessez votre grève et nous tiendrons compte de vos revendications. Effet négatif. Une heure plus tard, quand le soleil se lève, l'occupation de la place Tiananmen par les étudiants continue. Elle continue tandis que les balayeurs évacuent les monceaux d'ordures résultant de 6 jours d'occupation, aggravés par l'orage qui a transformé la place en bourbier. Les étudiants ont abrité les 300 grévistes de la faim, leurs camarades, dans 90 autobus réquisitionnés par la Croix-Rouge. Aux effets de la faim, de la déshydratation pour certains, s'ajoutent les dangers de maladies contagieuses causées par l'absence d'hygiène. Périodiquement, certains sont évacués vers les hôpitaux, dont la plupart reviennent dès que possible. Une journée d'attente, la 7e, commence alors que tout autour de la place Tiananmen, toute la Chine vit des heures d'incroyable confusion. Les organes d'information officiels ne cherchent même plus à le cacher. Un début d'anarchie est en train de s'installer, avec des manifestations partout, des trains qui n'arrivent plus, des usines qui ne travaillent plus guère. De quoi doper les étudiants? Non. La plupart semblent fatigués. Fatigués malgré l'afflux de milliers de jeunes venus de province soutenir leurs camarades par la voix ou par la méditation. C'est peut-être pour cela que, le soir venant, un leader des étudiants de Pékin demande à tous de faire preuve de sagesse et conseille même aux grévistes de la faim de cesser leur grève. Bien sûr, nous dit-il un peu plus tard, ce n'est qu'un conseil. Si un seul continue à faire la grève, nous resterons à ses côtés. Mais il est raisonnable de cesser la grève de la faim parce que la situation n'évolue pas selon la volonté des étudiants.
Voilà donc le 7e jour, un jour comme un autre, si ce n'est que ça a duré très longtemps et que la répression s'est ensuite abattue sur les étudiants en question. Alors pour comprendre le surgissement de ce phénomène et de cette révolte, il faut remonter aux années 70. Durant ces années-là, la République populaire de Chine est dirigée par Deng Xiaoping. Vous savez, c'est celui qui dit « on ne demande pas à un chat la couleur, quelle est sa couleur, on lui demande de chasser des souris ». Donc il incarne l'empirisme chinois par excellence. Et il a, au fil des années, Deng Xiaoping, placé ses fidèles à la tête du Parti communiste chinois, à la tête de l'État. Et il en est notamment convaincu le Parti communiste chinois de moderniser le pays en lançant les 4 modernisations. L'industrie, l'agriculture, les sciences et technologies et la défense nationale. Et en ouvrant le pays aux investissements étrangers. C'est le premier dirigeant chinois à faire un pas vers un semblant de libéralisme. En 1989, ce climat politique relativement ouvert encourage des professeurs de l'enseignement supérieur, des intellectuels et des étudiants à réclamer la 5e modernisation, celle de la démocratie et du multipartisme, déjà réclamé lors du printemps de Pékin en 1979. Ces intellectuels sont également influencés par la glasnost mise en œuvre en URSS par Mikhail Gorbatchev, qui est en cours au même moment. Ces enseignants regrettent de ne pas être aussi mieux payés. Des pétitions circulent qui réclament la libération des prisonniers politiques, nombreux, vivement réprimés par Yao Bang et Zhao Zhangjin, secrétaire général et premier ministre chinois jusqu'en 1987, à l'intérieur du Parti communiste chinois, deux lignes donc s'affrontent tout au long des années 80. Derrière Deng Xiaoping, certains demandent une accélération des réformes, tant économiques que politiques, et à l'opposé, face à la montée de l'inflation provoquée par la libéralisation des prix, les adversaires traditionnels de Deng Xiaoping, notamment l'économiste Cheng Yun, prône un arrêt des réformes, voire un retour au contrôle de l'État, pur et simple. Jusqu'en 1986, Deng Xiaoping s'entoure principalement de réformistes, notamment Yu Yaobang et Zhao Xinjiang. Cependant, les manifestations étudiantes donc de 1986, 1987, puis 1988 et 1989 enfin, vont renforcer les partisans d'un arrêt des réformes et poussent Deng Xiaoping à limoger Yu Yaobang, alors secrétaire général du parti, et à prendre comme premier ministre Li Peng, un protégé de Cheng Yun, un dur, un stalinien, et l'ancien premier ministre Zhao Xinjiang, proche de Hu, que l'on va limoger, donc prend la tête du parti. La direction chinoise se trouve alors divisée en deux tendances, des réformistes et des conservateurs. Malheureusement, les dissensions entre les deux groupes jouent un rôle déterminant dans le mouvement de 89. Ces divergences au sommet se retrouvent également à l'intérieur de la société. La seconde moitié des années 80 voit une accélération de l'inflation et une augmentation du chômage, situation qui oppose des ouvriers souhaitant un retour à l'ancien système à plusieurs intellectuels qui, eux, souhaitent une accélération des réformes. C'est ce processus, cette sorte d'opposition permanente qui va durer 4 ans, qui va déclencher les revendications du printemps 89 et évidemment la répression. Voilà ce que dit un survivant de cette époque qui s'est exilé au cours d'un entretien. C'était un des dirigeants étudiants. Il s'agit de Lo Mong Wang.
Sur place Tiananmen, il y avait 2 millions d'étudiants chaque jour, presque, pendant 50 jours, jusqu'à le 3 juin, en 1989. Une plus grande chose de ce que je souviens, c'est les étudiants qui criaient une phrase, c'est la démocratie, c'est notre rêve commun, ensemble. Et aussi, il y a la révolution française continue en Chine.
Pendant plusieurs semaines, les étudiants chinois avaient fait deux choses pour dire qu'ils voulaient la liberté. Et je dis bien, on est en 1989, c'est-à-dire 200 ans après, hein, c'était l'année du bicentenaire de la Révolution française. Ils ont construit une énorme statue de la liberté en plâtre, comme celle qui est à l'entrée du port de New York. Et peut-être que vous savez que la statue de la liberté, c'est l'union des révolutions françaises et américaines, parce que ça a été offert par la France aux États-Unis, en souvenir de l'amitié entre les deux révolutions. Et ils chantaient la Marseillaise en chinois.
On faisait la Révolution française sur place Tiananmen et continue le pensée de liberté, fraternité.
Eh bien, ça prouve que ce côté révolutionnaire de la Révolution française, il était encore actif quand on est face à une dictature, quand on est face à un régime autoritaire.
Le 4 juin, ça fait le grand de bord. Parce qu'on a entendu le bal. On a vu le corps tomber par la terre. On a vu le feu qui est sorti de fusée. On a vu le char qui écrasait les gens. Dans la nuit, il y avait un grand massacre. Et tous les étudiants sont échappés. Même moi. Le droit de l'homme, démocratie, liberté, ça n'existe pas dans le cours officiel de toutes les écoles.
Jamais entendu un Chinois qui parlait de toi l'homme jusqu'à mon âge de 23 ans.
Par exemple, dans Internet, en Chine, on ne peut pas écrire Tiananmen ou bien le Parti communiste, les mots-là. Quand tu écris très serré, et l'Internet va te supprimer automatique parce qu'ils ont créé un système pour contrôler ce genre de mots. Démocratie, tu ne peux pas. Quand tu écris, tu vas enlever automatiquement.
Voilà donc la chape de plomb sous laquelle ont vécu les Chinois à la suite de 89 et dans une certaine mesure encore partiellement aujourd'hui. Alors quelques chiffres pour situer les idées, si on peut dire, par rapport à cette répression. Côté répression, donc côté force de répression, il y a eu 200 000 militaires de 22 divisions provenant de 13 corps d'armée qui ont été transférés pendant l'état de siège dans la région de Pékin devant l'impuissance de la police armée du peuple à juguler les manifestations. Les soldats et les chars de la 27e et 28e armée de l'armée populaire de libération ont été envoyés pour prendre le contrôle de Pékin. Ce fut une véritable mobilisation, ce n'était pas simplement une opération de police. Côté victimes, c'est à la mesure des forces de répression, bien entendu. Alors, il y a plusieurs sources. D'après des sources qui viennent de l'Union soviétique, il y aurait eu 10 000 morts, dont en comptant civils et soldats. Du côté des forces de l'OTAN, qui observaient très, très attentivement, bien sûr, ce qui se passait en Chine, il y aurait eu 7 000 décès. Du côté britannique, les services secrets britanniques disent qu'il y aurait eu, pour ce qui concerne les civils, entre 4000 et 6000 civils tués. Mais en fait, personne ne sait très exactement le chiffre. Les services britanniques ajoutent qu'il y aurait eu 3700 tués parmi les militaires. Donc probablement des gens qui auraient désobéi et qui auraient été passés par les armes illico. C'est affolant. Et après, on peut détailler d'autres chiffres et voir à quel point... C'est surtout une population jeune qui a subi cette répression. Il est affolant de voir que la Chine vit encore sous ce traumatisme de 89, ne s'en est pas encore totalement remis. Et régulièrement, il y a donc des manifestations qui manifestent l'anniversaire des massacres de Tiananmen. Il y en a d'ailleurs eu ces derniers temps, ces dernières semaines en Chine. Par rapport au petit homme qui s'est opposé au char, voilà ce que un document, une sorte de tract vidéo qui a été diffusé quelque temps après la manifestation sur la place Tiananmen.
La désobéissance est un acte tellement difficile à réaliser que l'histoire n'a jamais cessé de mettre en avant les individus, célèbres ou inconnus, qui ont osé l'assumer. Ceux qui ont su se dresser contre les régimes totalitaires et les politiques ségrégationnistes sont autant de héros du monde moderne. La désobéissance est un acte individuel qui tire sa force de la capacité des hommes à œuvrer en commun. La désobéissance ouvre la voie à la résistance collective. En ce sens, elle est un danger pour tout pouvoir qui abuse de son autorité. Voilà pourquoi la désobéissance, en ce qu'elle conteste des règles établies, est considérée comme une infraction consciente et volontaire. À ce titre, tout contrevenant se confronte à une répression qui peut être violente et implacable. L'homme qui symbolise la révolte du peuple chinois pendant le massacre de Tiananmen au printemps 89 a été emporté par ses policiers en civil. Personne ne sait ce qu'il est devenu, mais il incarne l'espoir de centaines de millions de Chinois.
Alors il est un autre homme qui se situe sur le continent africain, qui incarne toujours, même s'il est disparu aujourd'hui, la fin d'une forme de domination ségrégationniste, c'est Nelson Mandela. Eh bien, en 89, un musicien de jazz, Miles Davis, pour ne pas le nommer, donc, compose tout un album en hommage à Nelson Mandela et ça s'appelle Amandla.
Thank you.
Miles Davis avec sa célèbre sourdine, un album Amandla en hommage à Nelson Mandela. C'est la dernière formation de Miles qu'on entend là avec l'arrangeur, guitariste, bassiste, claviériste Marcus Miller, un très très grand musicien, au saxophone Kenny Garrett qu'on entendait longuement là aussi, et puis un musicien un peu moins connu, Joe Sample au piano qui prenait également un chorus. Miles Davis, donc, c'est la dernière période, c'est celle qui consacre une forme de crépuscule, puisque le 28 septembre 1991, Miles Davis s'éteindra à Santa Monica des suites du sida. Il avait mis sur les rails un pianiste dans une de ses formations, ce pianiste s'appelle Chick Corea, et bien Chick Corea crée en 1989 son acoustic band. En l'occurrence de bande, il s'agit d'un trio et c'est probablement l'un des plus beaux trios de l'histoire du jazz.
Thank you.
Someday My Prince Will Come, un standard immortalisé par des musiciens comme Michel Legrand ou Bill Evans, et ici repris par l'acoustic band de Chick Corea, un trio composé outre du maître au piano, John Patitucci à la basse, que l'on entendait dans un très beau solo dans ce morceau, et Dave Weckl à la batterie. Voilà, ainsi s'achève ce deuxième épisode des années 89, de l'année 89, excusez-moi. Demain, nous aborderons un autre aspect de cette année-là, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte The Everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.